Madame la Présidente, nous sommes devant vous, mon confrère, mon ami, et moi-même, pour défendre notre client contre la préfecture qui veut l'éloigner. La préfecture qui se trouve à notre gauche, à votre droite, Madame la Présidente, c'est le sort inversé de cette salle d'audience qui vous place face à nous. Je crois que nous devons patienter. Apparemment, la préfecture s'est trompée de dossier. Patientons, laissons-la fouiller avec beaucoup d'énervement dans la pile de ces innombrables dossiers qui s'étalent sur tout le banc de plaidoirie. Et permettez-moi d'observer, Madame la Présidente, que la préfecture, elle au moins, n'est pas sans papier. Eh bien, remercions-la. Elle vient de planter notre décor. Nous sommes entrés de plein pied dans le contentieux des étrangers. Et voyez, notre client y est déjà noyé, comme un pauvre dossier interchangeable, un simple numéro de fichier, un inconnu sans existence. Mais nous n'avions pas besoin de cette démonstration préfectorale pour savoir que, ici, dans cette audience, devant ce tribunal administratif, nous sommes de l'avis général dans un contentieux de masse. Contentieux de masse, inutile de donner une définition. Tout le monde comprend ce que cela signifie. Contentieux de masse, eh bien, cela veut dire entassement des dossiers, procédure accélérée, défense réduite, escamotée. Nous pourrions d'ailleurs demander à la préfecture combien elle a de dossiers aujourd'hui. 20, 30, 40, elle ne sait plus. Peu importe. De toute façon, les chiffres sont là. Un dossier sur 4, sur 3 aujourd'hui, devant ce tribunal, un dossier sur trois est un dossier d'étranger. Et c'est à vous, Madame la Présidente, à vous de statuer en urgence, sans délai, sur le tas, comme on dit. Expression un peu familière, mais qui est plus démonstrative que l'expression officielle sur le siège. C'est à vous, Madame la Présidente, de statuer, vous qui êtes une habituée de l'écrit, de la patience, de la réflexion et du respect de l'équité. Eh bien, je voudrais, en préliminaire, prendre un peu de temps pour revenir sur ce contentieux. J'entends bien la préfecture protester avant même que je ne commence, pour gagner un peu de temps de son côté. Je voudrais donc m'arrêter un peu sur ce contentieux désolant où nous sommes regardés, mon confrère et moi-même, nous venons d'en avoir la preuve, comme des empêcheurs d'un bon déroulement d'audience, un déroulement au pas de charge, au pas de la préfecture. Je voudrais rappeler qu'à l'origine, Madame la Présidente, ce contentieux de l'éloignement où nous nous trouvons, qui est né il y a 17 ans, a été pourtant essentiel pour vous, essentiel pour la reconnaissance de votre rôle de juge. Jusque-là, rappelez-vous, nous avions d'un côté le juge judiciaire. Article 66 de la Constitution, je l'ai remis dans le dossier de plaidoirie, et vous le connaissez bien, Madame la Présidente, bien entendu. Article 66 de la Constitution, le juge judiciaire est le gardien de la liberté individuelle. Et de l'autre côté, il y avait vous, le juge administratif. Vous étiez alors trop souvent suspecté de n'être que le juge complaisant de l'administration. Eh bien, c'est avec le contentieux des étrangers qu'enfin vous a reconnu, vous aussi, comme étant un juge protecteur des libertés. Rappelez-vous, en 1989, le législateur voulait confier au juge judiciaire, article 66, gardien de la liberté, il voulait confier le contentieux de l'éloignement des étrangers où nous nous trouvons actuellement. Le juge constitutionnel a refusé. J'ai mis dans le dossier de plaidoirie, rappelez-vous cette décision, essentielle pour vous. Il nous a dit, relisons, la garantie effective des droits de ces étrangers peut être satisfaite aussi bien par la juridiction administrative. Nous remarquerons au passage, en lisant cette décision, que le juge constitutionnel s'est un peu trompé. Écoutez ce qu'il dit dans le dossier de plaidoirie, pièce numéro 2. Considérant que les litiges liés à ces situations ne sont pas d'une fréquence telle qu'ils puissent entraîner une dérogation aux règles normales de compétence. Ne soyons pas, tout le monde peut se tromper, même notre éminent juge constitutionnel. Il ne pouvait pas prévoir ce qui se passe aujourd'hui. J'ai vu les derniers chiffres. 70% de vos audiences sont des audiences consacrées aux étrangers. 20% au fisc et 10% pour tout le reste. Et pourtant, eh bien, c'est avec ce contentieux des étrangers que vous avez persévéré dans ce nouveau rôle protecteur des libertés. Rappelez-vous, vous avez été le premier, bien avant le juge judiciaire, à appliquer directement la Convention européenne des droits de l'homme à l'éloignement des étrangers. Harry Beljoudi, je l'ai mis dans le dossier de plaidoirie, numéro 3. Harry Beljoudi, avec les conclusions du célèbre commissaire du gouvernement à l'époque, Romney Abraham, c'est lui qui a poussé le Conseil d'État, notre juge suprême, Madame la Présidente, à faire un revirement de jurisprudence en reconnaissant que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, le droit à la vie privée et familiale, surtout familiale, l'article 8 s'applique aux étrangers, même en processus d'éloignement. C'était osé, c'était superbe, c'était créateur. Eh bien, c'est au regard de ce passé de résistance que nous vous demandons aujourd'hui, Madame la Présidente, d'utiliser votre marge d'appréciation qui vous caractérise si bien pour vous prononcer dans notre dossier et pour oser un beau revirement de jurisprudence en explorant avec nous, mon confrère plus précisément, un droit qui n'a jamais été soulevé dans le cadre du contentieux de l'éloignement, le droit d'auteur. J'entends bien la préfecture, avec force démonstration, tenter de nous empêcher de continuer. Je me permets de lui rappeler au passage qu'elle dispose elle aussi d'une grande marge d'appréciation, mais je ne vois pas qu'elle l'utilise bien souvent dans ses dossiers. Alors, je vais donc laisser la parole à mon confrère qui va vous présenter sa plaidoirie. Il est pénaliste. Vous n'avez guère l'habitude des gestes et des placements pénalistes chers à mon confrère. Vous les redoutez dans vos audiences, en habitué de l'écrire. Je suis plutôt publiciste, moi aussi. Comme vous, Madame la Présidente, je reste sage et immobile à mon pupitre, sauf quand la préfecture à notre gauche nous sort des énormités à l'ennemisme. Mais nous restons là, attentifs, attention à nos pupitres, habitués de l'écrit, pensant que la réflexion bien raisonnée passe par la rigueur rigoureuse d'une écriture qui peut être imaginative, mais qui doit répondre aux moyens soulevés par les parties en présence. Malheureusement, nous ne sommes pas dans les procédures administratives classiques. Vous le regrettez, je le sais. J'ai lu les enquêtes et les opinions des juges administratifs sur ces procédures. Nous sommes dans un contentieux de l'urgence qui déroge à toutes les règles de l'écrit. C'est donc à plus forte raison la place ici de mon confrère qui va vous convaincre de recourir à votre pouvoir créateur et d'aborder le dossier de notre client autrement, différemment, d'oser appliquer un autre domaine du droit, si étranger à la préfecture, celui du droit d'auteur. Donc je laisse la parole à mon confrère pour sa plus grande.
Madame la Présidente, je ne suis pas familier de votre juridiction, ni même de votre contentieux. Et c'est sans doute pour cela que, là où la préfecture voit un étranger, moi pour ma part, je vois un auteur. En effet, notre client, ma consoeur et moi-même, Monsieur X, est un auteur. Et c'est l'auteur d'une œuvre aux caractéristiques particulières, puisque c'est une œuvre qui est à la fois immatérielle, in progress, je m'expliquerai sur cet anglicisme tout à l'heure, et c'est également une œuvre réalisée en collaboration. Œuvre immatérielle tout d'abord. L'œuvre immatérielle est protégée, comme l'ensemble des œuvres artistiques. Et malgré la déformation que l'industrie culturelle fait régulièrement subir au droit d'auteur, eh bien, l'article 112.2 du Code de la propriété intellectuelle, c'est la Code 10 de votre dossier de plaidoirie, Madame la Présidente, dispose, je cite, « L'œuvre est réputée créée du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur. » Œuvre immatérielle protégée par le Code de la propriété intellectuelle, je vous en donne quelques exemples. Prenons deux exemples en jurisprudence, c'est tout de même une décision intéressante parce qu'originale. C'est la Code 11 de votre dossier, Madame la Présidente, il s'agit de la jurisprudence Sorbelli. Monsieur Sorbelli est un performeur, quelqu'un qui fait des performances devant des œuvres d'art classiques. Et en l'espèce, il avait fait des performances artistiques devant des œuvres du Louvre, en particulier devant la Joconde. La performance avait été prise en photo par une photographe, connue également, Mademoiselle Yoshida. Mademoiselle Yoshida, photographe, prétendait être seule titulaire des droits d'auteur sur les photographies qu'elle avait prises. Le performeur, M. Sorbelli, l'entendait d'une autre oreille, a agi en justice. Et le juge, dans sa décision du 3 décembre 2004, a décidé que, certes, la photographie était prise par la photographe, qui s'occupait de la technique photographique et des images, mais en revanche, que la performance elle-même était une œuvre à part entière, une œuvre immatérielle, j'y reviens, elle également digne d'être protégée. Résultat, Mademoiselle Yoshida, Monsieur Sorbelli, ont été considérés comme co-auteurs des photographies. Seconde décision de justice, qui concerne une œuvre sans doute encore moins matérielle, il s'agit de la pièce 12 de votre dossier de plaidoirie, elle concerne un monsieur Koenig. Monsieur Koenig est facteur d'or, on commence par lui confier la restauration de la langue, en l'est de la France, en Alsace, je crois. Et ce facteur d'or s'aperçoit que l'orgue est dans trop mauvais état pour être restauré. Donc, on lui confie une nouvelle mission de reconstruire un orgue nouveau dans le style des orgues du XVIIIe siècle. Le contrat est honoré, tout se passe bien. Quelques années plus tard, la commune décide de faire restaurer l'intérieur de l'église qui avait accueilli cet orgue. Oui, c'est que le nouveau revêtement utilisé pour revêtir les parois de l'intérieur de l'église vont venir différent du revêtement précédent et vont venir déformer largement la sonorité de l'orgue de Monsieur König. La sonorité d'un orgue a été protégée par une décision. Il s'agit d'une décision administrative puisqu'il s'agit de la Cour administrative d'appel de Nancy en 1996. Quelle œuvre plus immatérielle que la sonorité d'un homme ? Si, Madame la Présidente, vous n'êtes pas plus familière que moi de l'art contemporain, je me suis permis également d'ajouter, c'est la pièce 13, un petit historique de la dématérialisation des œuvres d'art dans l'histoire de l'art. Mais ceci dit, l'œuvre immatérielle, Madame la Présidente, vous est beaucoup plus familière que vous ne le pensez. La plaidoirie que je suis en train de présenter devant vous est une œuvre immatérielle. Elle n'en est pas moins protégée par le Code de la propriété intellectuelle au terme de l'énumération de l'article 112.2 du Code de la propriété intellectuelle. Œuvre immatérielle, j'ai cherché à vous convaincre qu'elle était protégée par nous. Œuvre immatérielle qui est également l'œuvre faite par notre client, M. X, une œuvre in progress, et je vous ai promis de m'expliquer quant à cet anglicisme, qui est d'ailleurs contraire à la loi de Toulouse. Je m'en dis. Œuvre in progress, la terminologie est courante en art contemporain et on peut, sans trop la trahir, la traduire de la façon suivante, comme une création en constante évolution, ce qui, ma foi, n'est pas très original, mais œuvre qui non seulement n'est pas achevée, mais, et ce qui est plus original, dont l'inachèvement est une partie constituante de l'œuvre. L'article 112.2 du Code de la propriété intellectuelle dispose, je recite, « L'œuvre est réputée créée, même inachevée, l'œuvre in progress est protégée par le Code de la propriété intellectuelle. » En art, la chose est relativement courante. J'en veux pour preuve la création de Schwitters. Création de Schwitters, je ne suis pas germaniste, je m'en excuserai, c'est la construction Metz, en allemand le Metzbau de Schwitters, dans les années 20, dans les années 30. Metz était le créateur du mouvement Metz. Je n'étais bien plus familier que vous, Madame la Présidente, de ceci, mais la consultation de mon encyclopédie m'a ouvert les yeux. Le mouvement Metz en Allemagne, c'est l'équivalent du mouvement Dada en France, quelque chose que, heureusement, je sens de la culture en connaissant que je connaissais. Et Schwitters fait son Merzbau dans sa maison. C'est une construction qui est en perpétuelle modification, en perpétuel complément. Il en rajoute tous les jours, toutes les semaines. Il crée de nouvelles excroissances, nouvelles cavités où ses amis artistes du mouvement Merz vont mettre leurs propres œuvres. Et Schwitters n'interrompt son Merzbau qu'à partir du moment où l'avancée du régime nazi lui interdit de rester là. Le concept d'œuvre in progress n'est pas théorique, n'est pas propre à l'art. Revenons-en à ma modeste plaidoirie, si vous le voulez bien, Madame la Présidente. Il est possible qu'à l'avenir, d'autres artistes, comme M. X, se présentent devant votre juridiction ou devant les juridictions de vos confrères, afin de faire valoir leurs droits d'auteur au sein du droit des États. Et ma consoeur et moi-même, d'autres avocats peut-être, nos collaborateurs également, seront sans doute amenés à revenir, replaider cette plaidoirie qui est donc, elle aussi, une œuvre in progress. Ma consoeur, moi-même, mes collaborateurs, venons-en, puisque justement, non seulement l'œuvre de M. X est une œuvre immatérielle, une œuvre in progress, mais c'est également une œuvre faite en collaboration. En effet, M. X n'est pas seul. Il travaille en collaboration avec M. Y. M. Y est un artiste français, donc européen. Et toutes les atteintes qui seraient portées par la préfecture au droit d'auteur de M. X le seraient également à ceux de M. Y. En effet, ils collaborent tous deux. Depuis le début, à la réalisation de leur œuvre, ils en sont les co-auteurs, chacun des auteurs étant titulaire de l'ensemble des droits sur l'ensemble de l'œuvre. Monsieur X est l'auteur, l'hôte, l'interprète exclusif de l'œuvre. Conclusion, le refus du titre de séjour opposé par la préfecture à Monsieur X porte également atteinte à la liberté de Monsieur Y de poursuivre, voire d'achever. Nous étions en droit pénal, ma matière d'origine, Madame la Présidente, je dirais que c'est une atteinte à ce principe cardinal du droit pénal qu'est la personnalité des peines. Personnalité des peines, la peine ne peut venir toucher que l'auteur de l'infraction même et bien évidemment épargner ceux qui ne sont pas auteurs ou co-auteurs. La personnalité des peines est un principe de droit pénal, mais nous sommes bien pourtant dans le même esprit d'atteinte au droit d'un tiers. Monsieur X, Monsieur Y, d'ailleurs, le co-auteur de Monsieur X, pourrait à ce sujet, sans doute, contester votre décision, Madame la Présidente, dans une procédure en responsabilité. Non seulement le refus du titre de séjour empêche un auteur étranger de continuer de créer, mais plus grave, peut-être, elle sanctionne également un auteur français, c'est presque une expropriation, c'est presque un bannissement incorporel d'un Français pour cause de police des étrangers. D'ailleurs, pour revenir au code de propriété intellectuelle, le code de propriété intellectuelle et ses commentateurs disent que l'œuvre est l'émanation et le prolongement de la personnalité de celui qui l'a créée. D'où mon terme de bannissement. Monsieur X est l'auteur, l'hôte, l'interprète exclusif d'une œuvre immatérielle, in progress. Ce sont les termes que j'ai choisis. Mais j'aurais pu choisir également de dire que Monsieur X est le créateur, que Monsieur X est le détenteur, le gardien, le praticien. Ces termes viennent du glossaire qui vient accompagner une convention de l'UNESCO. Convention de 2003 de l'UNESCO sur la protection du patrimoine immatériel. C'est la code 14 de votre dossier de plaidoirie, Madame la Présidente. Et le glossaire, c'est la code. Gardien. Si M. X est gardien, au terme de ce glossaire, il est le praticien auquel la communauté a confié la responsabilité de sauvegarder son patrimoine culturel immatériel. Gardien de cette œuvre immatérielle in progress, Monsieur X, je suis un trésor humain vivant. Alors, j'entends la préfecture qui proteste, c'est bien naturel. Bien naturellement, on comprend que dire que notre client est un trésor humain vivant, c'est bien loin de la conception d'étranger de la préfecture. Trésor humain vivant, l'expression ne vient pas de mon imagination fertile, Madame la Présidente. Elle vient plus simplement de cette convention de 2003. Convention de l'UNESCO destinée à protéger le patrimoine immatériel. Convention de l'UNESCO qui a intégré en droit international une notion qui nous est bien peu familière. Trésor humain vivant, c'est une notion de droit japonais, de loi de 1950, qui a été introduite donc en 2003, le législateur français n'est pas plus à l'aise que vous, Madame la Présidente, ou que moi, pour comprendre la portée de la notion. D'ailleurs, la notion par le législateur n'a été intégrée que par le biais de l'artisanat, que les meilleurs ouvriers de France, etc., etc. Et pourtant, c'est dans l'esprit de cette convention, Madame la Présidente, dans un esprit de sauvegarde, que je vous demande d'apprécier la menace que la préfecture fait peser sur notre pays. Madame la Présidente, je vous demande d'envisager avec moi une décision, une vieille décision du 19e siècle, que j'y sais d'un auteur, que le ministère public avait entrepris de décrédibiliser, ou plus exactement de faire interdire son œuvre. L'œuvre en question, c'était un livre. Le ministère public ne voulait pas, plus modestement, comme il le fait de temps en temps devant les 17e chambre correctionnelle de votre homologue judiciaire, demander l'interdiction de quelques mots, d'un paragraphe, d'une ou deux pages. Le ministère public voulait faire interdire l'œuvre entière, car contraire à la morale, car pernicieux. Seulement, dans cette affaire, le magistrat a eu le courage de donner une chance à cette œuvre, de laisser cette œuvre vivre, de la laisser rencontrer son public. Et aujourd'hui, nous lui en sommes encore reconnaissants, puisque l'œuvre en question, c'était Madame Bovary, et son auteur, c'était Gustave Flaubert. Revenons, Madame la Présidente, aux raisons qui font que la réalisation de l'œuvre exige le maintien de l'un de ses co-auteurs, notre client Monsieur X, en France. Cette œuvre dépend, une œuvre, toute œuvre dépend du contexte dans lequel elle est créée. Et vous, juge administratif, avez été plus clairvoyant et plus perspicace que vos homologues judiciaires, parce que vous avez déjà reconnu quelque chose que les artistes clament depuis longtemps. Cette chose, c'est que l'œuvre ne se crée pas indépendamment de son contexte. J'en voudrais là aussi pour preuve de décision de justice. La première, c'est à la code 20 de votre dossier, Madame la Présidente. Le tribunal administratif de Toulouse. Il s'agit de le résumé de cette décision que nous avons sous les yeux du ressortissant, d'un ressortissant de nationalité algérienne et d'origine kabyle, qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la France. Peu après son entrée en France, il rejoint une troupe formée d'artistes kabyles, au sein de laquelle il s'est fortement intégré en exerçant son métier d'acteur, de musicien, de compositeur. Et le tribunal administratif peut conclure qu'au regard de cette insertion professionnelle effective depuis 2 ans, dans des conditions lui permettant de s'exprimer librement et de trouver un public en tant qu'artiste kabyle, situation qu'il lui serait difficile de recréer dans un autre contexte socioculturel que celui de la France, le tribunal administratif annule l'acte de reconduite. Seconde décision, Madame la Présidente, c'est à la cote 19 de votre dossier, toujours décision administrative, cour administrative d'appel de Marseille, 21 décembre 2006. Décision relativement récente. Concerne un autre étranger, dont on dit qu'il a développé en France, et particulièrement dans la région montpelliéraine, une participation intense à la vie associative locale, grâce à ses activités musicales et culturelles. Qu'ainsi, compte tenu de la parfaite insertion sociale de l'intéressé depuis son entrée en France, l'arrêté du préfet de l'Hérault a porté au droit de M. X et au respect de sa vie privée une atteinte intenable, une atteinte, pardon, disproportionnée au but en vue desquels il a été pris, et là aussi, annulation de l'arrêté de reconduite à la France. Madame la Présidente, si vous confirmiez la mesure d'éloignement, vous condamneriez cette œuvre in progress, un peu comme dans l'affaire de Schwitters, l'arrivée des nazis avait condamné sa construction même. Vous porteriez également atteinte au droit moral de M. X. Droit moral, quelques mots sur le droit moral. Point d'auteur reconnaît deux droits, deux séries de droits à l'auteur. Droits patrimoniaux, comme leur nom l'indique, commercialisables. Droits moraux, les droits les plus éminents. C'est le droit à la paternité, le droit au nom. C'est le droit au respect de l'œuvre. C'est également le droit de divulguer cette œuvre. Je voudrais faire appel à une autre décision de justice concernant le droit de divulgation. C'est la décision qui concerne l'artiste Dubuffet. Il s'agit de la pièce 22 de votre dossier. Dans l'affaire Dubuffet, la régie Renault, au milieu des années 70, avait contacté l'artiste Dubuffet pour faire, je vous dis la décision de justice, une œuvre monumentale. Faisait, je crois, 50 mètres sur 60 mètres. Et puis, pendant la construction de cette œuvre monumentale, la régie Renault change d'avis, semble-t-il, pour des raisons de sécurité. Là non plus, l'artiste ne l'entend pas de cette oreille. Agir en justice et fait condamner la régie Renault pour l'avoir empêché de divulguer son œuvre. Droit de divulgation qui est donc un des droits fondamentaux du droit de la propriété intellectuelle auquel ferait obstacle l'arrêté de reconduite à la frontière. Madame la Présidente, quand on a un seul outil dans sa trousse à outils, et que cet outil, c'est un marteau, bien, il ne faut pas s'étonner de voir tous les problèmes qui se présentent à vous, comme des clous. C'est ce que je vous demande de faire ici. C'est pour ça que j'ai convoqué devant vous le droit d'auteur. Le droit d'auteur sans lequel, eh bien, on ne comprendrait pas la situation juridique de notre client, M. X. Et c'est pourquoi je vous demande, Madame la Présidente, non seulement de donner raison à M. X, mais de contribuer également à redonner à ce droit d'auteur, trop souvent perverti par l'industrie culturelle, son véritable sens, son sens initial, à savoir protéger l'autre. Lorsqu'en 1777, Beaumarchais, non seulement l'horloger, mais l'homme politique, le dramaturge, crée la Société des auteurs dramatiques, date de naissance du droit d'auteur moderne, eh bien, Beaumarchais lutte déjà contre l'industrie culturelle de son époque. L'industrie culturelle de son époque, eh bien, ce sont les directeurs de théâtre. Les directeurs de théâtre, Molière un siècle avant lui s'en plaignait tellement déjà, qui récupèrent, qui s'intitulent les propriétaires des œuvres des auteurs dramatiques. Je passe rapidement sur quelques projets pourtant fort intéressants d'époque révolutionnaire, les projets Sieyès, les projets Le Chapelier, les projets Condorcet. Pour en venir, et c'est à la code 6 de votre dossier de plaidoirie, Madame la Présidente, à un projet pour lequel j'ai toujours beaucoup d'admiration. C'est le projet Jean Zay. En 1936, Jean Zay est ministre du Front Populaire, ministre de l'Éducation nationale, et ministre de ce qu'on n'appelait pas encore ministre de la Culture, ministre de l'Éducation. Dans le projet Jean Zay, bien, vous en prendrez connaissance, Madame la Présidente, Jean Zay cherche à redonner toute sa place à l'auteur, la place principale. Pour finir, ma trop longue plaidoirie, désolé Madame la Présidente d'avoir été si long. Je voudrais citer une dernière décision de justice. C'est l'injustice qui concerne un compositeur russe. Il s'agit de Frédéric Chopin. On vient dire que Chopin est russe, parce que ça choque. Nous savons tous, nous croyons tous savoir qu'il est polonais. À l'époque, la Pologne n'avait pas d'entité autonome. Il avait donc un passeport russe. Et dans l'affaire Chopin, il s'agit, une trentaine d'années après sa mort, de savoir à qui appartiennent les droits de ses œuvres posthumes. Nous sommes en 1888, pas très longtemps après Sedan, dans l'atmosphère que l'on imagine, et la question qui se pose est de savoir quel est le droit applicable aux œuvres posthumes de Chopin. Si c'est droit russe, la loi russe s'applique et donne raison à un éditeur allemand qui a édité les œuvres de Chopin. L'éditeur français des œuvres de Chopin considère qu'il, lui, est titulaire des droits, en tant qu'ayant droit de Chopin, d'éditer les œuvres en question. Si le droit russe s'applique, l'œuvre échappe à la France. Si le droit français s'applique, l'œuvre est française. Et dans sa décision du 22 novembre 1888, la Cour d'appel de Paris affirme: le contrat de cession a été fait en France, au profit d'un Français, dont l'intention manifeste était d'user du bénéfice de la loi française, que publiée en France pour la première fois sans aucune antériorité étrangère, les œuvres posthumes dont il s'agit sont, par la volonté même des parties, un produit de la nationalité française, qu'à l'égard de cette propriété spéciale, fruit peut-être de l'influence française sur le génie du maître. Et la Cour d'appel de Paris le conclure que l'auteur, le compositeur étranger Frédéric Chopin, a été naturalisé par son œuvre française. Monsieur X n'est pas Chopin. La préfecture s'agite et je le reconnais que M. X n'est pas Frédéric Chopin, n'est pas Dubuffet. Mais c'est un artiste. Et qu'importe, c'est d'ailleurs un principe du droit d'auteur, qu'importe le mérite artistique d'une œuvre, elle est protégée dès lors qu'elle est conçue. On ne peut pas refuser à M. X ce que l'on avait accordé il y a 120 ou 130 ans à Chopin. Et c'est pourquoi, Madame la Présidente, par votre décision, vous permettrez au public français d'avoir accès à cette œuvre française, parce qu'influencée par la culture française. Et si le droit des étrangers n'était que ce droit qui permet systématiquement et automatiquement d'exclure, dès la demande de la préfecture, un étranger du territoire français, eh bien, ce droit des étrangers dont vous parlera dans quelques instants ma consoeur Sylvia Post-Lecinotte, ne serait que ce dont parle La Fontaine dans Le Chat et le Rat, quand il dit que le chat, la queue du rat sortait encore de la bouche du chat, quand le chat jura ne pas l'avoir mangé. Je vous remercie.
Madame la Présidente, voyez la confiance que mon confrère vous témoigne. C'est la première fois qu'il vient dans nos audiences d'étrangers. Et il s'y présente comme on le ferait dans n'importe quelle autre procédure, avec des arguments de bonne observance juridique, présentés magistralement, je vous l'avais dit. Malgré les gestes agacés de la préfecture, il vous a démontré la solidarité de notre œuvre et celle de notre personne physique, et que notre reconduite à la frontière entraînerait celle de l'œuvre, son véritable bannissement mais également le bannissement incorporel de son co-auteur. J'ajouterai que la Cour européenne, dont vous connaissez si bien la jurisprudence, nous dit, soulignant l'extrême importance de la liberté artistique, ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une œuvre d'art contribuent à l'échange d'idées et d'opinions indispensables à une société démocratique. C'est dans ce contexte que s'est placé mon confrère. Et je me joins à lui, moi qui suis une publiciste habituée du droit des étrangers. Nous sommes l'auteur, l'hôte et l'interprète exclusif d'une œuvre immatérielle in progress, créée en collaboration. Nous avons délaissé les arguments sans effet du strict droit des étrangers, puisqu'aujourd'hui, le contentieux de leur éloignement est devenu le plus stéréotypé, d'une grande violence dans sa répétition et dans l'extrême sécheresse de son langage, uniformisant sans âme les histoires particulières pour n'en faire qu'un immense schéma brutal et identique, une vision uniforme d'un étranger sans droit, sans existence et sans avenir possible. Nous voulons vous permettre de briser ce schéma et nous nous sommes placés dans le droit d'auteur. C'est pourquoi nous vous demandons d'annuler la mesure d'éloignement de notre client et de donner injonction à la préfecture d'avoir à délivrer le titre de séjour nécessaire au maintien de l'œuvre et de son auteur sur le territoire français. Merci, Madame la Présidente.